Merci Thomas Cluzel. Tout de suite, la grande table des idées, jusqu'à 13h30. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, à la lumière du passé, avec le philosophe Michael Fossel, professeur à l'école polytechnique, auteur de Récidive aux presses universitaires de France. Il s'est plongé dans la presse des années 30, des journaux d'extrême droite à l'Humanité, voyageant entre les lignes de 1938, brinque-ballé de défaite en défaite, défaite de la démocratie, défaite des partis, défaite aussi des sentiments. Car en 1938, écrit-il, la France est entrée en guerre, une guerre des mots. On va revenir sur ceux qui la glanaient dans la presse et sur ceux qui le préoccupent aujourd'hui. Bonjour Michael Fossel.
Bonjour.
Le philosophe est-il d'abord devenu historien à travers cette enquête ?
Historien, si histoire veut dire le passé, hein, ce qui est le premier sens du terme, oui, c'est par le passé ou par le détour par le passé que j'ai essayé d'aborder le présent plutôt que par le détour habituel pour moi par des textes philosophiques. Maintenant, si historien veut dire professionnellement explicatif ou essayer d'expliquer le passé par les archives, non, puisque moi je me suis limité en quelque sorte à un principe qui consiste à essayer de comprendre, non pas d'expliquer d'ailleurs, mais de comprendre ce que un lecteur de la presse de 1938 pouvait comprendre de son temps. Et comme la presse écrite à ce moment-là était l'organe principal de diffusion de l'information, il a été d'une certaine manière possible pour moi de me mettre dans l'esprit, dans la tête, dans le corps un peu de quelqu'un qui en 1938 ne sait du monde que ce que son journal en dit. Donc ce n'est pas un livre d'histoire en ce sens que c'est beaucoup plus où j'ai été plus attentif à la langue ou à une atmosphère telle que je peux la reconstituer imaginairement que simplement vouloir expliquer ce qui s'est produit et qui souvent implique évidemment que l'on se réfère à d'autres sources que les journaux.
Il lit quoi, le Michael Fossel de 1938, rajeuni de 80 ans?
Si j'avais été contemporain de cette année-là, j'aurais certainement lu un des trois journaux qui me semble avoir sauvé l'honneur, trois ou quatre journaux, le Populaire, le Journal Socialiste, l'Humanité, le Journal Communiste, au moins pour ce qui concerne la politique française, évidemment moins pour l'Union soviétique, ou bien à l'époque, un journal qui était de droite, très à droite, mais qui avait sa singularité, était de mettre l'intérêt de la France au-dessus des intérêts politiques traditionnels, c'est-à-dire que celui qui l'a fondé, Henri de Kérillis, un homme député de Neuilly, très à droite, je l'ai dit, considérait que même si le régime français ne lui convenait pas, à savoir la République, il prétendait tout de même défendre la France de ses ennemis. Le reste de la presse, il faut le dire, ne manifeste pas, je dirais, pour la démocratie, ni même pour la République au sens authentique du terme, un souci véritablement marqué. Et de ce point de vue-là, la traversée de 38 est aussi éprouvante par rapport, je dirais, à la possibilité que la presse soit autre chose que le relais des passions les plus tristes d'une époque.
Donc le Michael Fossel d'aujourd'hui a l'avantage d'ouvrir son champ de vision en lisant toute la presse, de la gauche des gauches jusqu'à la presse d'extrême droite, et donc d'avoir un point de vue complet sur ce qui se dit à ce moment-là. Et c'est important parce que, comme vous le rappelez, il y a une guerre des mots, une guerre des idées aussi qui se joue par titre de presse interposée, et il faut recouper un peu toutes ces informations pour savoir quelle est la vérité ou une des vérités de cette époque. Vous écrivez « J'ai rencontré l'année 1938 ». Pourquoi ? Est-ce à dire que tout n'a pas été dit sur cette année-là, qu'elle est mal enseignée ?
Je ne sais pas exactement comment elle est enseignée, mais ce que je sais, c'est ce que l'on m'en a dit à moi quand j'étais élève, et puis ce que j'ai pu lire ici ou là. Je ne dirais pas qu'elle est mal enseignée, elle est enseigné de manière au moins partielle. C'est-à-dire que de 1938, nous nous souvenons, et pour une raison d'ailleurs qui est bien compréhensible, c'est-à-dire que nous regardons 38 ou 37 à la lumière de 40, donc nous nous souvenons des événements qui sont les plus directement liés à ce qui va venir, c'est-à-dire à cette guerre que nous allons d'ailleurs perdre. Et par conséquent, l'événement de 38 qui est le plus souvent cité, ce sont les accords de Munich, c'est-à-dire ceux par lesquels la France et l'Angleterre abandonnent leur allié, du moins l'allié de la France, la Tchécoslovaquie à Hitler. Et par conséquent, on a ce sentiment que la démocratie ou les démocraties abandonnent leurs principes, et puis se caractérise surtout par une très grande faiblesse à l'égard des pays totalitaires voisins, c'est-à-dire en particulier l'Allemagne. Donc on a l'image de la France de 38 comme d'un pays en quelque sorte victime de sa faiblesse congénitale, et cette faiblesse est généralement référée dans l'imaginaire, soit au Front Populaire qui a précédé, c'est terminé en 38, mais qui a précédé deux ans plus tôt, soit au respect des règles parlementaires dans un moment où, dit-on, le monde, l'Europe du moins, se caractérise par une demande de chef et d'autorité. Alors la lecture de la presse, vous l'avez dit, alors quand même majoritairement conservatrice, mais cette lecture m'a quand même fait prendre conscience, non seulement d'événements que j'ignorais, mais aussi d'une langue, d'une manière de présenter l'actualité et de présenter les enjeux politiques du moment, qui tranche beaucoup avec ce scénario, disons, d'une France engoncée dans ses conflits intérieurs et surtout dans son souci démocratique. J'ai beaucoup plus fait l'expérience ou la rencontre d'un pays traversé par une grande lassitude démocratique, extrêmement réactif, sinon même réactionnaire, à l'endroit de ce qui s'est produit en 36, c'est-à-dire le Front Populaire, et puis, vous l'avez suggéré, qui certes majoritairement ne veut pas de la guerre avec l'Allemagne, ou ne veut pas de la guerre, tout court, extérieur, mais qui en revanche, ou à l'intérieur duquel se mène une guerre civile des mots, c'est-à-dire en réalité une opposition de plus en plus violente, de plus en plus brutale, entre ce qui reste de la gauche, car c'est une 1938, c'est l'année où la gauche perd le pouvoir, et puis des conservateurs de plus en plus revanchards.
Qu'est-ce qui vous a alerté, vous, le philosophe, vous, l'auteur du temps de la consolation, de l'avenir de la liberté, de la nuit, vivre sans témoin, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur cette année-là? Dans le discours politique, on entend certains évoquer le parallèle, le risque d'une répétition de l'histoire, cette peur. En novembre dernier, dans Ouest France, Emmanuel Macron se disait, lui, frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres. Dans une Europe, disait-il, qui est divisée par les peurs, le repli nationaliste, les conséquences de la crise économique, on voit presque méthodiquement se réarticuler, ce sont ces mots, tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-première guerre mondiale à la crise de 1929. Ça, c'est dans le discours politique, mais on a vu aussi paraître depuis 2-3 ans de nombreux essais s'interrogeant sur un possible retour des années 30. Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard, c'est le titre du livre de Philippe Corcuff. Les années 30, et si l'histoire recommençait, c'est celui coécrit par Pascal Blanchard. On va l'écouter.
S'attacher aux années 30, c'est déjà arriver à comprendre comment le monde bascule dans une sorte de chaos. C'est un moment où, à l'international, le monde change, les colonies sont en ébullition, la montée des populistes, la crise économique de 29. Il y a une sorte de basculement de l'histoire à ce moment-là. Et on voit bien qu'on va basculer dans quelque chose que tout le monde connaît, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, en une décennie, c'est passé quelque chose. Et ce quelque chose mérite d'être décrypté pour arriver à comprendre ces mécanismes. Et beaucoup de personnes faisaient la comparaison entre ce qu'avait produit la crise économique de 29 dans cette décennie et la crise économique dans les années 2007-2008, qui, quelque part, en Occident, avait fait le même moment de bascule. On le voyait sur la montée des populismes, le tous pourri, d'une certaine manière, la montée aussi d'un extrémisme aux États-Unis, Poutine en Russie. Donc on s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant d'aller regarder si cet énoncé de dire c'est un peu comme le retour des années 30, c'est vrai.
Il est là votre point de départ à vous aussi, Michael Fossel, la crainte d'une répétition de l'histoire?
Moi, je suis parti, comme souvent d'ailleurs, de ce que je pourrais appeler une forme de blessure, pas seulement d'inquiétude, de blessure. Il y a des blessures qui ne sont pas psychologiques. Là, ce serait plutôt des blessures, je dirais, sémantiques. C'est-à-dire que des phrases, des discours qui, sur des questions fondamentales liées aux migrations, liées plutôt d'ailleurs à la politique de l'asile, qui sont aussi des questions liées au social et puis à la démocratie comme système institutionnel, des phrases, des discours, des lois qui manifestent une défection à l'égard, je dirais, d'une certaine exigence démocratique dans un sens profond. Et cette sorte de blessure, évidemment, C'est là que je rencontre ce qui vient d'être évoqué. Souvent, on la compare à ce qui s'est produit dans les années 30, avec une certaine équivoque, disons, hein, sur la manière dont on présente ce retour. Bon, je laisse de côté d'ailleurs le mot retour, mais disons sur les échos avec les années 30. Et c'est effectivement à ce moment-là que, pour essayer en quelque sorte de rendre compte de ce qui d'abord me heurtait dans le discours public ou dans les mesures qui sont prises en rapport à l'état de droit, que j'ai voulu comprendre ce qui s'est passé dans une société qui se défait démocratiquement. Parce que c'est cela la France de 1938. Au moins autant, je dirais, qu'un pays faible ou qui n'est pas en mesure ou qui ne se donne pas les moyens d'affronter l'adversité. Je dirais plutôt que c'est un pays, et ses élites en particulier, certainement une partie de sa population, qui a intériorisé les injonctions, je dirais, de ses propres adversaires en termes d'autorité ou d'autoritarisme. Et par conséquent, j'ai pratiqué ce que je pratique dans chacun de mes livres, c'est-à-dire une forme de détour, plutôt que de parler du présent par le présent ou de rendre compte du présent par le présent, j'ai pratiqué ce détour parce que bien sûr ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas non plus ce ne sont pas les mêmes événements, ce ne sont pas les mêmes forces politiques. Par contre, et à bien des égards, c'est la même langue, c'est-à-dire la même grammaire par laquelle, petit à petit, une démocratie se renie elle-même au profit, ou plus exactement dans l'intention de faire face à ce qui s'oppose à elle. Donc cette espèce de paradoxe, qui me paraît pour le coup assez contemporain, consistant à vouloir affirmer les valeurs de la République, mais d'une République autoritaire, parfois au détriment des principes de la démocratie. Et là, de ce point de vue-là, 38 est tout à fait révélateur.
Ce champ lexical qui glisse, ces mots qui évoluent, il est là le mal, la maladie qui affecte ce corps à deux périodes différentes de sa vie organique, puisque plutôt que retour ou répétition, vous avez choisi et pris le parti de la récidive, et c'est le titre que vous avez donné à cet essai, Michael Fossel. La récidive implique quand même de tirer les leçons du passé, hein. Sinon à quoi sert l'histoire si chaque moment est singulier? Vous allez quand même rechercher ce qu'il peut y avoir de commun. Les analogies ?
Bien sûr, il y a des analogies, et puis il y a aussi d'ailleurs des comparaisons, parce que parfois on dit évidemment il y a des choses qui ne sont pas comparables, il ne faut pas comparer, mais en réalité on ne compare que des choses différentes, sinon on ne compare pas, on identifie. Et le point de comparaison qui est, j'en ai trouvé plusieurs, le point objectif de comparaison entre 1938 et puis 2018, l'année où j'ai écrit ce livre, 2019 encore, c'est que nous sommes 10 ans après une crise systématique du capitalisme, et que ce n'est pas le seul point de comparaison, parce que en réalité, ce dont je me suis rendu compte en 1938 et qui m'a d'une certaine manière éclairé sur 2018, c'est que plus personne dans la presse de 38 ne parle de la crise de 29, ou alors de manière très très lointaine, mais la France vit, d'ailleurs l'Europe à ce moment-là, un ressac de la crise, une forme de récession. Alors évidemment, comme toujours, lorsqu'il y a une tension économique et sociale, une montée de la pauvreté, une explosion des inégalités, on cherche des causes, et plutôt que de chercher des causes dans un système économique déjà largement dérégulé à ce moment-là, eh bien on va les assigner à ce qui est le plus facile, enfin la majorité de la presse et le gouvernement qui va prendre le pouvoir, celui de Daladier, va les assigner, ces causes, ou les attribuer plutôt, à la politique de Front populaire. Autrement dit, les 40 heures, les congés payés, tout cela va apparaître progressivement, va être présenté comme la cause de la décadence française, hein, de ce qui est présenté d'ores et déjà en termes identitaires et culturels. Et donc la politique qui va être menée, c'est celle qui consiste justement à abroger tous ces acquis, entre autres, hein, abroger tous ces acquis sociaux et démocratiques du Front populaire, à assigner, je dirais, en responsabilité de la supposée décadence française, une partie de sa population. Alors ça va varier selon les chambres, selon les instances d'énonciation si vous voulez, mais enfin même le parti central, le parti radical va dire bon bah au fond on va exclure quand même d'une certaine manière la classe ouvrière de l'unité nationale, et évidemment l'extrême droite s'engouffrera elle dans la brèche pour attaquer en particulier ou stigmatiser les juifs. Donc il y a un oubli de la, je dirais, des pesanteurs économiques mondiales à ce moment-là, et une des choses qui m'a le plus frappé en 38, alors que nous sommes effectivement au bord d'une guerre, eh bien c'est la politique intérieure qui, d'une certaine manière, dicte les décisions extérieures. Par exemple, les accords de Munich ne sont pas simplement une politique d'apaisement à l'égard de l'Allemagne. Ils sont souvent présentés, très explicitement d'ailleurs, dans certains milieux, disons, ultra-conservateurs, ils sont présentés comme le moyen de ne pas faire une guerre à l'Allemagne pour pouvoir régler le problème fondamental intérieur à la France, c'est-à-dire au fond pour rompre définitivement avec tous les vestiges du Front populaire.
1938, un mot revient souvent, celui de réforme, mot que nous connaissons bien aussi aujourd'hui, la réforme qui s'accompagne systématiquement, dites-vous, d'une baisse des dépenses publiques et des prestations sociales. Le 21 août 1938 aussi, à la radio, Édouard Daladier appelle à remettre la France au travail. Les beaux jours du Front populaire sont finis, pression sur les fonctionnaires, refus de dialoguer avec les syndicats, meneurs des grèves arrêtés. On remet le tempo à plein. On va écouter Édouard Daladier se féliciter en novembre 1938 de l'échec de la grève générale.
Ce qui a triomphé aujourd'hui, c'est le principe même de la République, le respect de la loi, le respect du travail, le respect de la patrie. On avait tenté de dire aux travailleurs de France qu'ils devaient cesser leur travail pour défendre les lois sociales. Le peuple de France a répondu, il a prouvé par son attitude qu'il savait que les lois sociales n'étaient pas menacées. Nous n'avons porté atteinte ni aux congés payés, ni aux salaires, ni à la loi de 40 heures. Nous avons, comme tous nos prédécesseurs s'étaient engagés à le faire, adapté sagement cette loi aux exigences de notre production et de la défense nationale. Le peuple de France a montré surtout qu'il savait que ses libertés n'étaient pas en cause, car on avait tenté d'accréditer auprès de vous la fable de je ne sais quelle menace dont vos libertés auraient été l'objet. Vous avez compris que la garantie de la liberté, c'est l'autorité de l'État.
Est-ce que là, il y a des mots qui vous marquent, Michael Fossel? Adapter la loi aux exigences de la société et de l'économie, l'État garant des libertés?
Oui, c'est intéressant ce son, parce que Daladier associe lui-même, parce que c'est dans le débat à ce moment-là, il associe lui-même les réformes économiques qu'il vient de prendre, qui sont d'ailleurs assez différentes de celles qu'il présente là, hein, parce que il y a un assouplissement, c'est le terme qui est employé, c'est pas l'agilité à ce moment-là, c'est l'assouplissement des 40 heures, mais assouplissement qui de facto vise à l'heure où produit leur abrogation, puisque non seulement les heures supplémentaires ne sont plus payées différemment que les heures normales, mais en plus elles sont obligatoires. Donc d'une part, il associe ce lien à la question des libertés. Donc le social ici et l'institutionnel ou le démocratique est lié parce que effectivement le reproche qui lui est adressé par ses anciens alliés, hein, il faut le rappeler, les socialistes ou les communistes, en particulier par Léon Blum, le reproche qui lui est associé est non seulement d'avoir pris des mesures à caractère, je dirais, ultralibéral, mais dans un contexte où d'une manière relativement, et même clairement, autoritaire, puisque en 38, contrairement à l'image qu'on peut avoir de la Troisième République, justement, parlementaire, toutes les mesures sont prises par décret-loi, c'est-à-dire par l'exécutif, et le Parlement ne se réunit pour ainsi dire plus. Et d'autre part, il intervient là, après la tentative de grève générale qui a lieu le 30 novembre, et qui, c'est vrai, échoue. Alors, elle n'échoue pas seulement, comme le dit Daladier, parce que le peuple français ou la République française, avec un grand R, a pris conscience, je dirais, de sa grandeur. Elle échoue aussi parce qu'elle est réprimée d'une manière qui, je dirais même, d'après la presse de l'époque, pour les critères des années 30, est considérée comme particulièrement violente. Non seulement gaz lacrymogène, plus de 2000 arrestations et plusieurs dizaines de milliers de licenciements. Donc, par conséquent, il y a effectivement, à ce moment-là, un échec, disons, pas seulement un échec de la classe ouvrière ou des salariés, ce qui est un problème strictement, je dirais, social, déjà d'importance, mais il y a, c'est le plus frappant, un échec de tous ceux qui tentent tout de même de montrer que le point central de la démocratie française est lié à la question économique et sociale. C'est-à-dire qu'au fond, pour le dire simplement, une république qui ne serait pas une république qui mettrait la justice sociale au cœur de ses préoccupations est une république, et c'est ça qui va peut-être se passer plus tard, pour laquelle partie de la population n'a plus très, très envie de se battre. Et par conséquent, après le 30 novembre, après l'échec de la grève générale, je n'ai plus vu dans la presse française, du moins en première page, des questions économiques ou des questions, disons, sociales en première page. Je n'ai plus vu que des questions liées à l'identité nationale, à la république avec avec un grand R, avec les républiques un peu autoritaires, si vous voulez. Et c'est-à-dire qu'il y a un déplacement du curseur, et c'est cela qui est aussi marque l'actualité de cette année, à mon sens. Il y a un déplacement du curseur idéologique, des questions traditionnellement liées au partage des richesses plus ou moins équitables, vers des questions identitaires et nationales. Parce que ce qui est le plus frappant, c'est qu'en général, quand on justifie, quand Daladier, et a fortiori ses nouveaux alliés dits les nationaux, hein, donc plutôt la droite, justifie les mesures prises à ce moment-là, disons, de remise en cause pure et simple de la politique de Front Populaire, ils ne le font pas seulement pour en argumentant avec des questions économiques, hein, pour sortir de la crise. Ils le font souvent, et Daladier l'a fait dans l'extrait qu'on a entendu aussi, au nom d'une sorte, je dirais, de pénitence que la France devrait marquer. Il faut remettre la France au travail, hein, dit Daladier, il faut retrouver le sens de l'effort. Et j'étais tout de même frappé de trouver ces formules sacrificielles dans la bouche, non seulement de Daladier, et a fortiori, je dirais, de ses alliés conservateurs, qui sont à peu de choses près des formules que l'on retrouvera en 40 à Vichy, hein, c'est-à-dire ce scénario d'une France qui aurait vécu au-dessus de ses moyens démocratiques, au-dessus de ses moyens sociaux, au-dessus de ses moyens économiques, et qu'il faudrait remettre au travail de manière autoritaire. Ce scénario ne date pas de 40, ce qui ne veut pas dire que ce qui se passe en 38 soit identique à ce qui se passe en 40, pas du tout, mais ça veut dire que la France était préparée à entendre malgré tout ce type de discours, je dirais, de récrimination morale quasiment du pays, puisqu'il était déjà tenu 2 ans plus tôt.
Vous le dites, de toute façon, cette année 1938, c'est d'abord celle d'une folle accélération des processus qui sont d'ores et déjà à l'œuvre. Est-ce qu'il faut pour autant faire, là encore, le parallèle avec aujourd'hui, et c'est intéressant, sur cette question du travail, quand Daladier dit remettre la France au travail, Emmanuel Macron a eu des mots cette année, le 1er mai, qui lui ont été beaucoup reprochés. D'ailleurs, le parallèle a été fait avec Pétain plutôt qu'avec Daladier, lorsqu'il a dit, le jour de ce qu'il a qualifié comme étant la fête du travail, la fête de toutes celles et ceux qui aiment le travail, le chérissent parce qu'ils produisent, parce qu'ils forment, parce qu'ils savent que par le travail nous construisons l'avenir. Merci de porter ces valeurs et d'œuvrer chaque jour pour notre nation. C'est le message qu'il a envoyé sur les réseaux sociaux, Twitter, ce jour-là. Beaucoup lui ont rappelé que le 1er mai n'était pas la fête du travail, mais la journée ou la fête internationale des travailleurs, donc plutôt une célébration des mouvements, du mouvement ouvrier et de ses acquis sociaux. Est-ce que là, vous vous dites, bon, les mots sont employés dans un sens un peu similaire, ou à chaque époque son langage aussi ?
À chaque époque certainement son langage, mais alors quand j'écrivais ce livre, j'ai essayé, je sais pas si j'y suis parvenu, mais enfin j'ai tout de même essayé, disons, de garder un peu de mesure quant au rapprochement que l'on pouvait faire, sémantique je veux dire, entre les époques. Bon, mais cette déclaration que vous citez d'Emmanuel Macron, chérir son travail, pour le coup, il n'y a pas besoin de faire grand effort pour voir que la logique qui mène, parce que c'est à ça qu'il faut réfléchir au-delà des prises de position personnelles, la logique dans un contexte, je le répète, lié encore aux effets à long terme de la crise. La logique qui consiste à affirmer la valeur intrinsèque du travail. Hein. Chérir son travail, c'est tout de même affecter un sentiment amoureux, pour le coup, quasiment, ou en tout cas une sacralisation du travail, dans un contexte d'abord où le travail se caractérise par sa pénurie, hein, ce qui est aussi un point commun. Et puis, d'autre part, c'est une manière de présenter, je dirais, le système économique tel qu'il existe comme indépassable dans sa forme. Donc, c'est pas tellement avec, effectivement, Pétain qu'il faut comparer cela, parce que la conception du travail, disons, pétainiste, c'est une conception essentiellement, d'ailleurs, tournée autour du travail agricole, inséparable de ce point de vue du sens de la terre, ce qui est pas tellement présent à l'époque de Daladier, en 38. En revanche, se remettre au travail ou chérir le travail, c'est tout de même considéré et affirmé que la vocation, je dirais, quasiment individuelle ou existentielle de l'individu, se situe dans le champ économique et au détriment souvent d'autres formes de liberté, car la liberté économique n'est tout de même pas le prototype absolu de la liberté. Et de ce point de vue-là, effectivement, le 1er mai, vous l'avez dit, enfin sauf pour le coup sous Vichy, ce n'est pas la fête du travail, mais la fête des travailleurs, souvent de la baisse du temps de travail. Et cette espèce, disons, le terme est très présent en 38, mais je crois qu'il est éclairant aussi aujourd'hui, de mobilisation des individus autour de causes qui sont de plus en plus exclusivement définies dans le champ économique et social. Ou alors, Ça, c'est le côté progressiste. Ou alors du côté des nationalistes, des mobilisations, cette fois-ci du point de vue, disons, ethnique, point de vue d'une certaine conception archaïque de la nation. On voit bien qu'il y a deux types de mobilisation, la mobilité économique et sociale d'un côté, la mobilisation ethnique de l'autre. Je crains beaucoup, c'est un point commun avec 38, en tout cas je crains beaucoup que cette alternative-là soit assez, je dirais, préoccupante pour la démocratie, et surtout qu'elle nous condamne à faire l'expérience du deuxième terme de l'alternative à court ou moyen terme, et là il n'y a pas besoin, c'est-à-dire le nationalisme, et là il n'y a pas besoin d'aller jusque dans les années 30, il suffit de traverser les Alpes pour voir que des politiques néolibérales menées à la Renzi, je dirais, facilitent l'accès de ce à quoi elles sont censées s'opposer, c'est-à-dire précisément le retour, l'accès au pouvoir de populistes que je préfère appeler pour ma part des nationalistes.
C'est absurde et dangereux de comparer les années 30 à aujourd'hui pour une raison, c'est ce que nous dit le sociologue québécois Mathieu Bock-Côté, auteur de L'Empire du politiquement correct.
Notre époque pose ses propres défis, pour le terme convenu. Notre époque a ses propres problèmes. Notre époque a une part d'originalité indéniable, me semble-t-il. Or, rabattre les années présentes sur les années 30, c'est premièrement une manière facile, normalement, de se placer du bon côté de la barricade historique. Rarement, on en appelle aux années 30 pour se situer du côté des forces du mal. Alors, on dit, ce sont les années 30 et moi, je suis un résistant dès maintenant. Je vois venir la bête. Donc, c'est une manière de se faciliter, de se féliciter à l'avance de son rôle dans l'histoire. Deuxièmement, je trouve que c'est une manière assez agaçante de transformer le désaccord politique sous le signe du scandale moral. C'est-à-dire, tout désaccord substantiel devrait nous ramener aux années 30 d'une manière ou de l'autre, et on comprend très vite que dans cette espèce de jeu d'amalgame, on en arrive très rapidement à l'hitlérisation du désaccord. Or, me semble-t-il qu'aujourd'hui, des phénomènes comme ce qu'on appelle plus ou moins habilement, à mon avis, plus ou moins justement la montée des populismes, le retour de la nation, le besoin de penser des identités substantielles, penser la crise migratoire qui nous frappe, devant tout cela, me semble-t-il qu'on a besoin d'appareil conceptuel neuf, ou à tout le moins de penser justement sans toujours dire c'est l'éternel retour du même, c'est la figure du déjà-vu. Je veux bien comprendre que d'une époque à l'autre, il y a des schèmes récurrents dans la nature humaine, dans l'histoire humaine, inévitablement, mais au-delà des schèmes récurrents qui traversent l'histoire d'une manière ou de l'autre, plaquer la grille des années 30 sur notre époque, c'est nous condamner premièrement à ne pas comprendre notre époque, et deuxièmement, nous condamner à transformer en adversaires, les adversaires en monstres, ce qui me semble inquiétant.
Comment faire parler les récurrences, voire les rémanences, sans tomber dans l'amalgame?
Oui, sans tomber dans l'amalgame, évidemment, il faut aussi avoir une interprétation, enfin je crois qu'il faut avoir une interprétation nuancée, ou plus exactement pluralisée, de ceux qui disent, comme votre intervenant, que nous ne sommes pas du tout dans les années 30, que ce que nous vivons n'a rien à voir avec les années 30, car il y a des historiens, des analystes politiques, peut-être des philosophes, qui soutiendront cette thèse de manière, je dirais, non seulement sincère, mais en même temps avec des arguments qui méritent d'être entendus. Et puis il y a ceux, et je crains que cet intervenant en fasse partie, qui veulent absolument que nous ne soyons pas dans les années 30, je veux dire, bien sûr, nous ne sommes pas dans les années 30, hein, je prends soin de le préciser, mais qu'il n'y a pas de rapport substantiel, pour en prendre un terme souvent utilisé, de Mathieu Bock-Côté, qui veulent que nous n'y soyons, qu'il n'y ait rien à voir, pour pouvoir présenter des discours qui sont des discours, pour le coup, tout à fait présents dans les années 30 du côté ultra-conservateur, pour pouvoir les présenter comme absolument nouveaux. Car se rendre attentif aux défis de notre temps, c'est évidemment très louable, comme aux défis spécifiques de notre temps. C'est évidemment très louable du point de vue intellectuel, et j'essaie d'y œuvrer aussi. Les défis, je dirais, de nature, puisque ça a été cité, des défis de nature, par exemple, migratoire, ou plutôt liés à la politique de l'asile, sont déjà très présents dans les années 30, en tout cas en 38, et les démocraties se caractérisent à ce moment-là par le refus d'accueillir. Et de ce point de vue-là, je dirais que les arguments qui sont présentés à cette époque ne diffèrent pas beaucoup de ceux qui sont présentés aujourd'hui. Donc c'est pas seulement qu'il y a des schèmes, il y a aussi des nécessités ou des formes, disons plutôt d'associations d'idées, par exemple la crise sociale et l'immigration, ou l'appauvrissement l'assistanat, qui sont présents aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de retour des nations, eh bien, évidemment, il faut s'entendre sur le côté, enfin sur la définition de la nation. Mais si la nation prend un sens de plus, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, dans le discours public de plus en plus ethnique, de plus en plus, en tout cas, culturaliste au minimum, eh bien, je crois que il est intéressant de se demander ce qui s'est produit dans l'histoire lorsque la nation est devenue l'apanage des nationalistes.
Voilà, récidive 1938, Michael Fossel, vous montrez dans cet essai comment moment aussi, l'abandon de la question sociale va souvent de pair avec le rejet des étrangers, avec une demande d'autorité incarnée par un homme fort. Les hommes forts, il y en a beaucoup aujourd'hui qui gouvernent des pays en Europe, mais aussi ailleurs. Est-ce qu'on a aujourd'hui raison de rassembler derrière ce terme de populiste, Trump, Bolsonaro, Orban, Salvini, tous ceux qui semblent s'opposer à la raison démocratique? Est-ce que vous voyez, vous, une égalité de rapport là-dessus entre 38 et aujourd'hui, puisqu'en 38 déjà, on rebaptisait les nationaux populistes?
Oui, on les rebaptisait populistes, mais en tout cas, en Allemagne, le mot populiste renvoyait à folk, c'est-à-dire à la race. Au moins, il y avait quelque chose d'assez clair, c'est-à-dire que le populisme se définissait comme ce qu'il était, c'est-à-dire le populisme nazi, se définissait comme étant racial. C'est pour ça que, pour ma part, j'emploie le moins possible le concept de populisme, parce qu'il ne désigne pas chez ceux que l'on vise par là, et qui d'ailleurs souvent assument positivement ce terme, il ne désigne rien de politique. Il désigne, alors je veux bien l'admettre, un type de discours, celui qui oppose, disons, la pureté du peuple à la corruption des élites, mais il ne définit pas ce qui est tout de même le contenu du discours politique tenu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut aussi bien parler de populisme de gauche, de droite, et puis que très vite on rentre, puisqu'il n'y a pas de politique sans alternative ou sans confrontation, on rentre dans cette idée que nous n'aurions au fond que deux choix entre un progressisme, je dirais essentiellement économique et technologique peut-être, et puis un populisme réactif sinon réactionnaire. Il n'y a aucune raison à mes yeux d'abandonner le peuple aux populistes, et puis finalement ça ne fait pas paraître ce qui est la spécificité de la montée en puissance aujourd'hui de ces mouvements, c'est-à-dire plutôt un nationalisme identitaire, tout de même quelque chose qui renvoie à un contenu. Après tout, même ceux qui se défendent de ces thèses, enfin qui défendent ces thèses, s'appellent eux-mêmes les nationaux. Je crois qu'on peut, comme en 38 d'ailleurs, on peut leur faire la grâce de les appeler par leur propre nom, parce que mettre un signe d'égalité entre tous les discours qui appellent au peuple comme à la source de la légitimité démocratique, ça me paraît être éminemment discutable, tout simplement parce que de fait le peuple est la source de la légitimité démocratique, démocratique. Encore faut-il savoir comment on définit ce peuple. Si on le définit de manière culturelle, ethnique, ou si on essaie de le définir, et c'est à cela que la démocratie nous invite, je crois, d'une manière politique, contractuelle en quelque sorte, de ce point de vue-là, évidemment, je crois que même le signifiant peuple, quoi qu'il faille le manier avec prudence, n'a pas à être abandonné aux adversaires de la démocratie.
Vous disiez que c'est un peu simple de résumer le clivage actuel aussi entre les nationaux et les progressistes. Pourtant, c'est un clivage qui a, une fois encore, occupé la campagne des européennes, avec un scrutin qui aura lieu dans un peu moins de 15 jours maintenant. Sur quel clivage, pour vous, Michael Fossel, vont se jouer ces élections ?
Moi, je crains qu'il ne se joue sur le clivage qui nous est présenté comme le clivage fondamental, hein. Donc effectivement, progressiste contre nationaliste. Je ne fais pas de pronostic, mais je constate quand même qu'on se bat beaucoup pour savoir dans les sondages si la victoire sera à la liste qui fera 23 ou celle qui fera 25%. Bon, ce qui est le plus marquant, c'est que ce clivage, même si les listes qui concernent ces deux mouvements, donc en l'occurrence En Marche et le Rassemblement National, sont en tête, ce clivage ne semble tout de même pas satisfaire la majorité des Français, puisque les deux listes ajoutées ne font pas plus de 50%, et puis on parle, en plus il y aura vraisemblablement beaucoup d'abstention. Autrement dit, le clivage fondamental, qui à mon sens est le clivage nécessaire, en tout cas souhaitable en démocratie, je n'ai rien lire là d'original, je vais même me revendiquer d'un ancien monde, c'est le clivage droite-gauche, qui a un grand avantage, c'est qu'il permet de civiliser le conflit politique, de l'articuler, je dirais, précisément à une idéologie ou à des idéologies, celles qui, pour la droite, privilégient soit la tradition, soit la liberté individuelle, pour la gauche, soit l'émancipation, soit l'égalité sociale. Évidemment, tous ces concepts peuvent être ensuite modalisés, mais enfin, au moins, ce sont des principes politiques qui n'engagent pas, je dirais, une morale nécessairement. Tandis que si vous êtes dans progressiste versus populisme, qui voudrait ne pas être progressiste, ou qui voudrait d'ailleurs ne pas se revendiquer du peuple, si alors on arrive en plus à un clivage qui est celui qui vient après, en réalité, je le crains, les nationaux contre les antinationaux. Alors là, évidemment, on est dans une brutalisation du discours qui ne se règle pas d'un point de vue qui ne peut pas se régler autrement que par la violence, qu'elle soit verbale, voire physique. Donc je dirais que toutes les tentatives, qu'elles soient populistes ou progressistes, je ne mets pas un signe d'égalité entre les deux, mais toutes les tentatives de dépasser le clivage gauche-droite sont des tentatives qui sont extrêmement inquiétantes d'un point de vue démocratique, car on n'a tout simplement pas trouvé mieux que ce clivage-là, avec toutes les nuances qu'il permet, pour donner à la conflictualité démocratique un sens politique et pas un sens, je dirais, existentiel ou moral.
Merci beaucoup, Michael.
Merci à vous.
Récidive 1938, votre essai vient de paraître aux Presses universitaires de France. Merci à toute l'équipe de La Grande Table pour cette nouvelle très belle semaine. À Mayan Escovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des Idées. À Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture. À Mathilde Tonfourcade et Antoine Suzarelli pour leur aide très précieuse. À la réalisation toute cette semaine, c'était Milena Hellig et Marie Placet. Très bon week-end sur France Culture. Donc, mes rendez-vous lundi, n'oubliez pas, en direct de Cannes pour 3 émissions spéciales.